Je donne tout de suite la parole à Pierre Descôtes, que je connais bien puisqu'il a été membre de mon laboratoire, le laboratoire d'études sur les monothéismes. Il est actuellement maître de conférences en langue et littérature latine à l'université, qui s'appelle maintenant Sorbonne Université. Il est spécialiste des écrits exégétiques et polémiques d'Augustin, et il a publié sa thèse dans la bibliothèque augustinienne en 2016 sous le titre « La grâce de la Nouvelle Alliance ». Et il était déjà présent l'année dernière au colloque Nicodème. Je lui donne tout de suite la parole.
Je vous remercie beaucoup. Donc, l'auteur d'une anthologie de textes patristiques consacrée à Joseph, conseillait à tout chercheur qui serait amené à parler de ce sujet devant une audience, un auditoire, de commencer par prévenir « Do not expect too much ». Le même auteur, dans l'article qu'il a consacré à Joseph dans l'Augustinus Lexicon, relevait d'emblée que pour Augustin, comme pour la plupart des auteurs latins et grecs, Joseph n'était pas un objet de vénération, n'était pas vraiment un centre d'intérêt non plus, c'était surtout une source considérable de problèmes exégétiques et doctrinaux, et de problèmes très embarrassants, qu'il s'agisse de la question de la double généalogie dont on a parlé ce matin, des frères et des sœurs de Jésus qui ont été évoqués également ce matin, de la nature du mariage qui l'unit à Marie, ou enfin, évidemment, peut-être le problème le plus ennuyeux, de la réalité de sa paternité. Alors, je vais quand même essayer de trouver quelques points dignes d'intérêt sur la manière dont Augustin traite Joseph, mais je préfère prévenir tout de suite, il est possible que, en définitive, cette recherche m'ait appris plus de choses sur l'évêque d'Hippone que sur l'époux de Marie. Alors, on trouve un exemple, une illustration particulièrement frappante de cette accumulation de difficultés très gênantes dans le seul sermon augustinien intégralement consacré à Joseph, qui est le sermon 51. Alors, il s'agit d'un sermon dont la datation a été discutée, j'y reviendrai, mais qu'il faut très certainement, quasiment de manière sûre, situer à Carthage pendant l'hiver 403-404, et qui est prononcé face à un public qui a préféré venir écouter la prédication d'Augustin plutôt que d'assister au spectacle du théâtre qui se tiennent au même moment. Et l'idée générale de cette intervention m'a été inspirée par la lecture du récent ouvrage de Michel-Yves Perrin, Civitas Confusionis, dans lequel l'auteur déplorait que aient été en définitive peu étudiées les techniques rhétoriques qu'utilisait Augustin pour traiter de problèmes extrêmement complexes et très polémiques face à un auditoire de non-spécialistes. Et de réussir à faire participer des laïcs à une controverse qui pouvait éventuellement poser de réels problèmes de foi. Or, ce qui est intéressant, c'est que dans ce sermon consacré à Joseph, Augustin traite un sujet délicat en raison de sa complexité théologique et de sa portée polémique. Et en plus d'y entendre des réflexions intéressantes sur Joseph et donc pour ce colloque, il me semble qu'on y trouve parfaitement illustré deux des caractéristiques majeures de l'exégèse et de la prédication augustinienne, le goût pour la difficulté et le paradoxe, d'une part, et un souci pédagogique et une technique rhétorique tout à fait impeccable, d'autre part. C'est ce que je vais essayer de vous montrer à propos de Joseph. Donc, je commence par parler brièvement du contexte polémique du sermon, qui constitue très certainement une réponse aux manichéens. Je reviens d'abord très rapidement sur la question de la datation du sermon. Le sermon 51, c'est un sermon qui a longtemps été daté, assez tardivement de 418, c'est-à-dire de la période dans laquelle Augustin lutte contre Julien d'Éclane. De fait, il y a des parallèles assez nets entre ce sermon et le contre-Julien, mais on peut quand même penser qu'au moment où il écrit le sermon dont je vais vous parler aujourd'hui, Augustin n'est pas encore parvenu au degré d'élaboration technique sur la question du mariage qu'il atteint dans la polémique contre Julien d'Éclane, hein, et dans lequel il distinguera ce qu'il appellera les trois biens du mariage, fides, proles et sacramentum, j'y reviendrai, auxquels satisfait parfaitement le mariage de Marie et de Joseph. Bon, la question de la datation a été reprise et réglée de manière probablement définitive par Pierre-Marie Humbert et François Dolbeau, qui ont fait remarquer d'une part qu'il y avait une citation biblique d'Isaïe qui était caractéristique d'une époque précise de l'œuvre d'Augustin, et qui ont fait remarquer également qu'il y avait une portée anti-manichéenne extrêmement nette dans la prédication d'Augustin. Et c'est d'ailleurs le lien entre la polémique anti-manichéenne sur le mariage et la controverse contre Julien qui explique que la confusion ait été possible, puisque Julien, comme les manichéens, soutenait le fait que l'union entre Marie et Joseph, n'ayant pas été consommée, ne constituait pas un réel mariage. Hein, j'y reviendrai. Donc je vais commencer par rappeler ce contexte qui permettra rapidement de cerner les principaux griefs élevés par les adversaires d'Augustin contre Marie et contre Joseph. Alors le premier problème que pose Joseph a été évoqué rapidement ce matin, c'est la distinction des deux généalogies dans l'évangile de Matthieu et devant l'évangile de Luc. Et Augustin traite en particulier longuement d'un problème arithmétique qui ne manque pas d'intérêt, qui est comment 3 fois 14 peuvent faire 41 chez Matthieu. Comment est-ce qu'en additionnant toutes les générations, on arrive à un chiffre qui n'est pas bon ? Je ne m'attarde pas sur la question parce qu'elle a été étudiée dans ce sermon en particulier et dans la tradition théologique plus généralement par Nathalie Requin dans la revue des études augustiniennes. Mais il faut quand même noter ce problème, je le signale d'emblée, parce que la réponse qui apportera Augustin sur la double paternité de Joseph, une paternité charnelle et une paternité spirituelle, selon qu'on le considère comme le fils de Jacob ou comme le fils d'Élie, a une pertinence pour la question de son rapport, de sa paternité, de son rapport à Jésus. J'en dirai un mot tout à l'heure. Ça, c'est le premier problème que pose Joseph. Deuxième problème, qui est plus intéressant pour notre colloque, on s'approche de Joseph avec les attaques qui sont portées par les adversaires d'Augustin contre Marie, au paragraphe 3 et 4 du sermon. De toute manière, Marie est une cible privilégiée des manichéens. Et les manichéens, les adversaires d'Augustin lui disent « Admettons que le Christ est absolument tenu à se faire homme, quel besoin avait-il d'en passer par la naissance d'une femme ? Est-ce qu'il n'aurait pas été plus noble et plus convenable qu'il soit créé, comme cela avait été le cas pour Adam ? Est-ce qu'il fallait vraiment passer par l'indignité de la naissance par le corps d'une femme ? Marie est superflue, et si on prend le temps de souligner qu'elle est superflue, c'est parce que elle est également indigne de porter un dieu. Et le mépris des manichéens envers la femme et envers le corps féminin transparaît très nettement dans la réponse d'Augustin à travers des formules comme « ad nascendum ut quid elegit feminam ». Qu'est-ce qui lui a pris de choisir une femme s'il voulait naître ? Ce que souligne immédiatement Augustin, c'est que c'est une mauvaise question que posent les manichéens. La question ne devrait pas être « ut quid elegit feminam », pourquoi a-t-il choisi une femme ? Mais « quid fugere debuit ». Pourquoi est-ce qu'il aurait dû la fuir ? Pourquoi est-ce qu'il aurait dû refuser de naître comme tous les hommes en passant par une naissance charnelle ? Et Augustin fait remarquer que s'il avait refusé ça, le Christ aurait signifié que le corps d'une femme aurait pu au fond le contaminer. Et ça aurait été une condamnation du sexe féminin, de la gent féminine, qui aurait été parfaitement superflu et injustifié. Donc, Augustin le dit, Jésus pouvait naître en se passant de l'intervention d'un homme, il aurait sans doute pu le faire également en se passant de l'intervention d'une femme. Mais il a choisi de naître homme pour montrer qu'il voulait sauver les hommes, et il a choisi de naître d'une femme pour montrer que ce salut s'étendait également à la partie féminine de l'humanité. Ça, c'était pour Marie, qui donc a sa part de grief, et on en vient finalement au cœur de notre sujet et aux attaques contre Joseph. Les adversaires d'Augustin s'en prennent de trois manières différentes à Joseph. Il faut noter tout de suite que c'est plus original comme texte et c'est plus rare. D'habitude, c'est Marie qui intéresse les manichéens et Joseph est soigneusement laissé dans l'ombre. Mais les manichéens sont visiblement avisés que Joseph leur offrait un certain nombre d'angles d'attaque qui n'étaient pas inintéressants et qui leur fournissaient surtout des angles de moquerie assez plaisants et assez efficaces. Donc le premier, c'est au paragraphe 9, à propos du moment où Joseph pense Marie adultère et envisage de la renvoyer. Et les manichéens ont beau jeu de moquer le trouble qui s'élève dans l'âme de Joseph. Est-il juste de douter de son épouse ? Est-il juste de songer la renvoyer ainsi ? La situation, au fond, n'a-t-elle pas quelque chose de ridicule avec ce mari jaloux qui a peur d'être cocu, etc. Et donc les manichéens moquaient ce trouble et cette réaction hésitante de Joseph. Ça, c'est pour la partie dérision, si vous voulez. Pour la partie où les manichéens se moquent du personnage. Il y a plus grave. Il y a plus grave que la moquerie, il y a la calomnie. Et c'est plus loin dans le sermon. Je reviendrai sur ces griefs plus dans le détail à partir des réponses qui apporte Augustin. Je vous donne juste pour le moment les angles d'attaque de ses adversaires. Au paragraphe 16, il s'agit plus seulement de ridérer, mais de calomniarer, d'attaquer, de calomnier Joseph. Et ce que disent les manichéens, c'est que Joseph n'est pas véritablement l'époux de Marie. Leur mariage est fictif, puisqu'ils n'ont pas eu de relation sexuelle. Un mariage sans consommation n'est pas un véritable mariage, et c'est donc une fiction et un mensonge que de prétendre que Joseph est l'époux de Marie. Troisième angle d'attaque qui découle immédiatement du précédent, en conséquence, il n'est pas non plus le père du Christ. dans la mesure où il n'y a ni génération charnelle, ni lien conjugal avec Marie, les manichéens remarquent, non sans bon sens, hein, les manichéens ont souvent les remarques auxquelles se heurte Augustin sont souvent pleines de bon sens, ni génération charnelle, ni lien conjugal, il n'y a donc aucun argument pour défendre Joseph, qui usurpe un titre de plus, hein, il est également un père fictif. Donc si on récapitule, c'est pas très glorieux. Un homme de peu de foi qui ne fait pas confiance à sa femme, un faux mari et un père fictif. Le portrait n'est pas très flatteur. Donc j'en viens aux réponses qu'apporte Augustin et à la manière, surtout au procédé qu'il va employer pour répondre à ces attaques des manichéens. Hein, et ce que je vais essayer de montrer dans cette partie, c'est le goût du paradoxe, si vous voulez, dont il fait preuve. Le point de départ de la réponse d'Augustin, c'est qu'il y a incontestablement dans le personnage de Joseph un mystère. Mais ce mystère, ce n'est pas une occasion de se moquer des Écritures et de Dieu, ça doit être un défi fécond lancé à l'entendement humain. Donc il prend les griefs un par un et il y apporte les réponses. Premier grief, la tentation de renvoyer Marie. Hein, je vous renvoie au premier texte de l'exemplier, au paragraphe 9 du serment 51. Joseph a effectivement cru Marie adultère lorsqu'il a appris qu'elle était enceinte. Et on peut difficilement le lui reprocher. Dans ces conditions, réplique Augustin, sa réaction a été irréprochable. Il a fait deux choses. Première chose, il n'a pas voulu la conserver auprès de lui. Et ça, selon Augustin, ce n'est pas la marque d'un manque de foi, c'est la marque au contraire de sa justice. Car c'est la conserver auprès de lui alors qu'il la savait adultère, alors qu'il la pensait adultère, qui aurait été une erreur. Plus qu'une erreur, une faute. Et c'est alors qu'apparaît dans le sermon, pour la première fois, le thème de la concupiscence charnelle, de la convoitise charnelle, de la concupiscentia carnis. Hein, Augustin fait remarquer qu'ils auraient été nombreux, les maris, qui, sachant leur femme adultère, l'auraient gardée auprès de lui, en se disant que eh bien, c'était pas si grave, hein, et que le mariage présenterait sûrement bien des avantages qui le rembourseraient de cette situation un peu bancale. Hein, c'est ce que dit Augustin. S'il voulait l'épargner, ce n'était pas qu'il désirait la posséder. Nombreux sont ceux qu'un amour charnel pousse à épargner des épouses adultères, car ils souhaitent les posséder, même si elles sont adultères, afin de pouvoir assouvir avec elles leur convoitise charnelle. Donc, premier bon point pour Joseph, il n'a pas fait preuve de concupiscentia carnis. Second bon point pour Joseph, il n'a pas voulu sévir. Certes, il a voulu la renvoyer, mais il a refusé de créer un scandale qui déshonorerait Marie. Autrement dit, Joseph, dans cet épisode, a fait preuve d'une justice supérieure à ce qu'exigeaient faiblement de lui ses contempteurs. Il a donné un nouveau sens au mot « parquéré », il a épargné Marie en un sens beaucoup plus haut que ce qu'exigeaient de lui les manichéens. Il a su allier « justitia » et miséricordia. Justice en refusant qu'un péché ne soit pas puni, miséricorde en refusant de causer un scandale qui aurait déshonoré Marie. Justice et miséricorde, d'ordinaire, c'est un couple de termes qui s'applique au jugement de Dieu. Donc, Joseph s'est montré juste en voulant renvoyer Marie. Et Joseph sort grandi de l'épisode, il n'a été ni saeus, ni libidinosus, ni cruel, ni concupiscent. Et Augustin rajoute, non sans ingéniosité, que cet épisode n'est pas un accident, il est nécessaire. Parce que si Joseph n'avait pas fait preuve de trouble, n'avait pas hésité, eh bien il serait passé pour un imbécile. Et la confiance qu'il a eue ensuite envers Marie aurait été de beaucoup moins de poids. Hein, c'est parce qu'il a douté que la foi dont il fait preuve ensuite, pour le lecteur, a de la signification et elle est digne d'attention. Ce qui est intéressant dans ce passage-là, c'est la manière dont Augustin, pour la première fois dans le sermon, passe d'une position de défense à une position d'attaque. Non seulement l'épisode n'est pas une honte pour Joseph, mais c'est la marque d'une vertu supérieure pour Joseph. Regardez la dernière phrase du premier exemple. On est passé d'une position défensive à « qualis hic justus ». Quelle justice admirable en cet homme. Deuxième point, la réalité de son mariage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, la réponse d'Augustin va se développer en deux temps. Le problème qui se pose à Augustin, c'est que là, sur la question de la réalité du mariage de Joseph, il n'a pas seulement face à lui les manichéens. À partir du moment où, comme de nombreux auteurs antiques, y compris des pères de l'Église, on considère que ce qui détermine le mariage est sa consommation, hein, que la consommation est un point important et essentiel dans le mariage, alors ces auteurs ne pouvaient pas affirmer que Marie et Joseph avaient un vrai mariage. Et on trouve cet embarras non seulement chez les manichéens, au moment de parler de Joseph comme de l'époux de Marie, chez Hilaire de Poitiers, chez Maxime de Turin, dans un sermon du pseudo-Origène, évidemment chez Julien Desclanes, mais lui, on n'en parle pas, c'est un hérétique. Face à cette hésitation, le tournant est constitué par l'œuvre d'Ambroise, qui va affirmer que le mariage est constitué non pas par la consommation de l'acte sexuel, mais par un contrat passé entre les époux, autrement dit, donne un substrat juridique à la discussion qu'on va retrouver chez Augustin. Première étape de la réponse d'Augustin, qui est la moins ambitieuse, aller chercher dans la Bible des passages qui attestent du lien conjugal entre Marie et Joseph. Et il en trouve deux, hein, Matthieu 1,20, le témoignage de l'ange, Noli acquipere Mariam coniugem tuam. À ce moment où l'ange parle de Mariam coniugem tuam, on peut difficilement remettre en cause la réalité du mariage entre les deux. Et Luc 2,48, le témoignage de Marie, qui dit au Christ que son père et elle se font le chercher. Donc là, il y a deux passages qui sont quand même des témoignages sûrs et de poids, mais Augustin a conscience qu'il ne lève pas toutes les difficultés. Pourquoi ? Parce que Matthieu 1,20, certes, dit que Marie est l'épouse de Joseph, mais enfin, dit le passage, remarque Augustin, implique également que le Christ n'est pas de la semence de Joseph et n'est pas son fils, n'est pas né, comme dit Augustin, ex complexu eius et concubitu. Donc, c'est un témoignage qui est intéressant, mais qui n'est pas décisif. Luc 2,48 n'est pas tellement plus satisfaisant, parce qu'après tout, la réponse de Jésus distingue bien deux paternités, une paternité charnelle et une paternité divine, qui donc a bien tendance à relativiser la réalité de la paternité de Joseph. Autrement dit, ce n'est pas complètement satisfaisant. Et là, la virtuosité d'Augustin va être de trouver une deuxième ligne de défense. La difficulté à laquelle il est confronté, c'est d'expliquer au sens commun qui veut que la paternité implique la génération charnelle, qu'il faut définir d'une manière plus intéressante et plus profonde la notion de pater. Regardez le deuxième exemple de l'exemplier, le paragraphe 21. L'idée fondamentale d'Augustin est qu'il est impossible de faire de l'acte sexuel la condition d'un véritable mariage. Il faut opposer caritas conjugalis, l'amour qu'ont les époux l'un pour l'autre, et concupiscentia carnis, la convoitise charnelle. Et c'est évidemment la caritas qui va déterminer qui va constituer le réel critère du mariage. Mais l'ingéniosité d'Augustin, et sa démarche, son ingéniosité polémique, si vous voulez, ça ne va pas être seulement d'opposer deux facteurs, ça va être de montrer qu'il y a une relation de proportionnalité entre les deux. Qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire qu'il n'y a pas seulement une opposition entre charité et concupiscence, mais moins il y a de concupiscence, plus il y a de charité. Moins il y a de concupiscence, charnelle, sexuelle, plus le mariage est donc vrai. Comme le montre l'exemple d'Augustin, des couples qui vivent à son époque et qui vivent dans la continence. L'idée, le principe est le même, on ne se contente pas de défendre le mariage entre Marie et Joseph, on contre-attaque vigoureusement. Non seulement la sexualité n'est pas un critère à prendre en compte, mais elle ne constitue au fond qu'un obstacle à un mariage proprement dit, un mariage au plus haut sens du terme. Et il y a un passage que je vous ai mis quand même, parce qu'il est délicieux, au au chapitre 24, où Augustin fait remarquer que dans une discipline conjugale stricte, la sexualité doit être seulement une question d'utilité, et il propose de soumettre les hommes mariés à un test, qui est intéressant parce que Joseph l'a passé avec brio. Ce test, c'est de proposer aux couples qui disent n'être intéressés dans l'acte sexuel que par la perspective d'une descendance, d'obtenir cette descendance sans en passer par la fastidieuse épreuve des relations sexuelles, et ensuite d'observer les réactions. Et je vous laisse sur le passage, et Augustin dit, demandez à un homme pourquoi il a des relations sexuelles avec sa femme, il vous répondra en rougissant, pour avoir des enfants. Dites-lui, Dieu t'offre d'avoir des enfants sans avoir de relations sexuelles avec ta femme, il vous dira, finalement, tout bien réfléchi, c'était peut-être pas tout à fait le but premier. L'intérêt du passage, outre d'être assez amusant, c'est que Joseph a triomphé de ce test-là. Dans l'épisode dont j'ai parlé tout à l'heure, le moment où Joseph a envisagé de renvoyer Marie, a refusé de la garder simplement pour satisfaire sa convoitise charnelle, il a montré qu'il n'était pas tenu par cette concupiscence. Autrement dit, le test que propose de manière plaisante Augustin, il dit très peu d'hommes, voire aucun n'en triompherait, Joseph, lui, a réussi. Bien. Alors, ce raisonnement conclusion, je vous le cite quand même le passage, texte 4 de l'exemplier, prétendre, comme vous l'avez en latin, non debuit dici pater quia non sic genuerat filium, c'est mal définir le mariage. Faire dépendre la réalité du mariage de la présence ou non d'enfants, et même plus simplement de l'existence ou non de relations sexuelles, montre qu'une chose, c'est qu'on n'a rien compris à ce qu'est un mariage chrétien. Troisième grief et troisième réponse d'Augustin, la question de la paternité de Joseph et la question de savoir s'il est véritablement le père du Christ. Donc la question de la paternité de Joseph, elle a, comme celle de son statut conjugal, posé problème à une grande partie des auteurs patristiques qui ont hésité à le désigner comme l'authentique père de Jésus. Je ne donne pas d'exemple, mais un des textes qui pose ce problème, c'est celui dont on a parlé ce matin, dans lequel le terme nutricius est utilisé. Pourquoi est-ce qu'on parle de père de Jésus? Parce qu'il l'a nourri, ce qui implique pas, malgré tout, qui ne remplit pas toutes les conditions pour parler véritablement de paternité. Donc les auteurs patristiques sont embarrassés. Augustin, lui, va choisir non seulement de ne pas être embarrassé, mais de dire non seulement que Joseph est le vrai père du Christ, mais qu'il est le père plus qu'aucun homme qu'on connaisse. C'est la paternité par excellence. Alors comment est-ce qu'il va faire ça? C'est à partir du paragraphe 26, hein, l'exemple 4 de l'exemplier, à partir de la question de l'adoption. Il oppose d'une part la natura vignentis, on dit le processus naturel de génération d'un enfant, et la voluntas adoptionis, la volonté de celui qui adopte un enfant. Et Augustin conclut qu'il est meilleur d'accomplir spirituellement ce que l'on n'accomplit pas charnellement, y compris dans le domaine de la paternité. C'est-à-dire que la génération charnelle est une contingence matérielle. En revanche, la décision d'un homme d'adopter un enfant, de choisir un enfant et d'en tenir le rôle de père est quelque chose qui spirituellement est supérieur. Conclusion d'Augustin, ita ergo, ainsi donc, non solum debuit esse pater Joseph, Joseph n'a pas dû seulement être père, c'est de maximer debuit, mais il a dû l'être au plus haut point. Hein, le terme important, c'est évidemment le superlatif maximé. Au fond, ce que dit Augustin, c'est que précisément parce qu'il n'est pas le père de Jésus par la génération charnelle, il l'est au plus haut point. Alors on peut soit trouver ça génial, soit trouver qu'Augustin ne manque pas d'un certain culot, si vous voulez. Hein, se rendant bien compte qu'une simple position défensive face aux manichéens n'est pas complètement satisfaisante, il décide de ne pas défendre que Joseph est père, mais qu'il est père plus que tout autre homme. Hein, plus on s'affranchit de la génération charnelle, plus le mariage est réel, plus la paternité est vraie. Joseph a connu une paternité plus heureuse parce qu'elle n'a pas eu à s'infliger la nécessité de la sexualité. Dans ces conditions, c'est le modèle de l'adoption, nécessairement, qui doit intéresser Augustin, hein, parce qu'il permet, au fond, à un enfant d'avoir deux pères, un père biologique et un père spirituel. Ce qui est intéressant, parce que ça permet d'abord de résoudre le problème de la cohérence de la double filiation de Joseph lui-même, ce qu'Augustin fait dans le sermon au paragraphe 27 à 29, hein, et d'inscrire dans l'esprit du lecteur cette notion d'adoption, sans jamais dire directement dans le texte que Joseph est père adoptif de Jésus. Il prend bien soin de ne pas le dire, j'y reviendrai dans deux minutes, il prend bien soin de ne pas le dire, mais au fond, ce qui s'imprime dans l'esprit du lecteur, c'est cette notion d'adoption, dont Augustin dit que ça a été le cas pour Joseph, qui a lui-même été adopté. Il souligne que cette adoption existe dans l'Ancien Testament, qu'elle ne pose pas de problème, etc. Alors, je voudrais venir dans une dernière minute de mon intervention, revenir sur un point qui me paraît intéressant. Donc, on a affaire à une véritable promotion de Joseph, qui est mise sur le même plan que Marie. Je vous ai regardé le texte 6. Hein, Sic ut illa sine carnali concupiscentia mater, sic ille sine carnali commissione pater. Hein, sic ut caste maritus, sic caste pater est. Autrement dit, autant la chasteté de Marie est équivalente à la chasteté de Joseph, sa paternité vaut autant que la maternité de Marie, etc. Il est promu au même niveau que la Vierge comme père du Christ. Bien. Là, il y a là, encore une fois, un goût du paradoxe tout à fait exceptionnel. La première ligne de défense qui consistait à justifier simplement l'emploi du terme père à partir des Écritures ne lui a pas suffi. Donc, il a entrepris de redéfinir complètement la notion de paternité pour faire de Joseph le père par excellence. Bien. Alors, ça pose quand même une difficulté, un problème dans ce sermon. Je voudrais profiter des remarques que je viens de faire pour dégager deux traits de la prédication augustinienne. Le premier, je vais juste en dire un mot très rapidement, et le second, je m'attarderai un peu plus. Le premier point, c'est qu'il y a quelque chose qui est caractéristique, non seulement dans ce sermon, mais dans tout le reste de la prédication d'Augustin, c'est sa qualité rhétorique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait tenir un public, hein, et qui prend grand soin de le faire. Les premiers paragraphes du sermon sont un modèle de captatio benevolentiae, où il flatte son public, en lui disant que c'est un public d'élite, qui a bien fait de ne pas aller au théâtre et qui a bien fait de venir écouter sa prédication, qu'il est bien normal que ce public ait quelques hésitations face aux critiques des manichéens, puisque lui-même, Augustin, dans sa jeunesse, etc., autrement dit, il se met au même niveau que le public en disant « que vous ayez des difficultés, c'est bien normal, moi aussi, et moi plus que vous, puisque dans ma jeunesse, etc. » Donc il consacre une certaine énergie à flatter son public. Tout au long du sermon, il accorde une extrême attention à maintenir cette attention. Il crée des dialogues fictifs, il donne la parole dans le sermon à Joseph. Il y a une courte prosopopée de Joseph qui prend sa propre défense, fait parler Dieu, il crée des dialogues fictifs entre ses adversaires et lui-même. Autrement dit, on a un modèle d'ouvrage rhétorique et de manière dont un bon orateur tient son public. Bon. C'est tout à fait remarquable, c'est un des traits de la prédication d'Augustin. Mais ça doit aussi éveiller notre attention. Hein, parce qu'un orateur, c'est un peu comme un prestidigitateur. Au moment où on sent qu'il essaie d'attirer l'attention de son public, c'est probablement qu'il essaie de cacher quelque chose. Et là, visiblement, dans ce sermon-là, c'est très exactement ce que fait Augustin. Alors, qu'est-ce qu'il essaie de cacher ? Il reste 2 minutes, je vous dis ça en 2 minutes. Disons que dans ce sermon, il livre incontestablement une très forte démonstration sur la réalité du mariage entre Marie et Joseph. La réflexion sur la concupiscence, le primat de la charité, qui va aboutir à la théorisation de sa réflexion contre Julien Desclanes, tout cela est extrêmement frappant et extrêmement convaincant. En revanche, là où le sermon pêche, c'est dans le raisonnement qui peut paraître un peu moins solide sur la question de la paternité, qu'il a tendance, au fond, à ramener à la question de l'autorité paternelle. La difficulté de l'entreprise d'Augustin, c'est de dégager la notion de paternité de la notion de génération charnelle. C'est-à-dire que même si, biologiquement, Joseph n'est pas le père du Christ, il est quand même véritablement son père. Or, que fait Augustin tout au long du sermon, et dans les textes que je vous ai donnés sur l'exemplier, il montre toujours une seule chose, que Joseph est véritablement l'époux de Marie. Et une fois qu'il a montré ça, il glisse directement à la suite de la phrase, comme s'il l'avait démontré, en disant, puisqu'il est l'époux de Marie, eh bien, écoutez, il est le père du Christ. Or, je ne dis pas qu'il y a il y a quand même un saut logique à ce moment-là. Quand vous regardez le passage où c'est le plus frappant, c'est au paragraphe 21, donc l'extrait, ça doit être l'extrait, je ne l'ai peut-être pas mis, je vais vous le lire à ce moment-là. C'est sur la première page probablement. Oui, pour l'extrait 2. Pour ne s'être pas uni à la mère du Seigneur, Joseph n'en demeure pas moins à son père. Est-ce la convoitise, n'est-ce pas plutôt l'amour conjugal qui constitue l'épouse ? Non itaque proptere non sit pater Joseph, quia cum matre dominion cum cumbuit, quasi uxorem libido faciat et non caritas conjugalis. Dans cette phrase, Augustin ne montre qu'une seule chose, tout le développement précédent n'a montré qu'une chose, c'est que le mariage entre Joseph et Marie est valide. En à aucun moment, il a montré que le Christ était le fils de Joseph. On a exactement la même chose au paragraphe 26, dans le texte que je vous ai cité également. Sicut illa caste conjux, sic illa caste maritus, de même que c'est une chaste épouse, c'est un chaste époux, très bien, ça il l'a démontré. Et sicut illa caste mater, sic illa caste pater. De même que c'est une chaste mère, c'est un chaste père. Ça, il ne l'a pas du tout démontré. Et c'est caractéristique dans un texte d'Augustin. C'est le moment où ses effets rhétoriques sont les plus brillants, ses parallélismes sont les plus frappants, ses figures de style sont les plus abondantes, qu'il essaie de faire passer un temps faible argumentatif. Alors, on ne peut pas franchement lui reprocher, parce qu'au bout du compte, il ne fait que répondre à la manière dont les manichéens ont posé le problème. Les manichéens ont posé leur objection sur la réalité de l'union de Marie et de Joseph. Mais on peut quand même lui reprocher de faire comme si, en ayant réglé un problème, il avait réglé les deux. Et pourquoi est-ce qu'il ne règle pas le deuxième, alors qu'il a les outils pour le régler dans le sermon ? À partir du moment où il a fait intervenir la notion d'adoption, où il explique qu'il y avait une paternité spirituelle qui était au fond supérieure à une paternité charnelle, il suffirait de dire ce que tout le sermon fait attendre, que Joseph est au fond comme un père adoptif du Christ. Mais il refuse absolument de le dire pour des raisons évidentes, c'est qu'à ce moment-là, il ouvrirait la porte à des torrents de contestation sur une paternité fictive, une paternité trop humaine, une paternité qui n'est pas réelle, etc. Donc il se contente d'allusions, de comparaisons, d'évocations de l'adoption, sans jamais dire directement ce qu'on attend, page après page, qu'au fond, le modèle qui l'intéresse, c'est le modèle de l'adoption. Je conclue. C'est pour ça que je vous disais qu'on apprend au fond, sans doute, autant sur Augustin commentateur que sur Joseph, objet de commentaire. Ce qu'on apprend dans ce sermon, c'est qu'une difficulté pour Augustin, elle n'est pas faite pour être levée, elle n'est pas faite pour être réglée rapidement, qu'un rhéteur n'a rien à gagner à rester sur la défensive, que le mystère et l'adversaire qui pose des objections sont fort utiles pour donner une impulsion à la pensée, et que Joseph, dans ce cadre, est le sujet idéal pour qu'Augustin exprime son goût pour le paradoxe et la contre-attaque. Encore une fois, la meilleure défense aux échecs comme en théologie, ça reste la contre-attaque. Non seulement Joseph est l'époux de Marie, mais il est l'époux par excellence. Non seulement il est le père de Jésus, mais il l'est maximé. Il y a quand même là une forme de génie à transformer ce qui pourrait être un point faible de l'argumentation en une pointe rhétorique. Je vous remercie.
Merci beaucoup.